Alors c'est tout à fait inédit pour moi de revenir sur mes années de médiation en archéologie, et plus particulièrement en préhistoire. J'y étais formée au sein de l'association Archéolithes alors que je commençais mes études d'archéologie à l'université. Et dans le cadre de cette journée dédiée à la médiation, on m'a proposé un retour sur expérience, donc un retour sur 7 ans de pratique, plusieurs milliers d'enfants et des dizaines de projets différents. Donc au début, l'exercice m'a paru difficile. Bon, avant de me concentrer sur une expérience précise, je vais d'abord commencer par distinguer peut-être deux approches pédagogiques distinctes, deux façons d'apprendre la préhistoire finalement, et qui correspondent à deux grands types d'ateliers pour la médiation en archéologie. Les premiers ateliers proposent de mettre l'enfant dans une situation de reproduction d'un objet archéologique, la fabrication d'une lampe à graisse, la réalisation de parures en pierre tendre, etc., ainsi que la reproduction d'un geste que certains vestiges attestent. Par exemple, dans le cadre d'un atelier qui porterait sur les parures du néolithique, les enfants peuvent fabriquer des perles en pierre tendre par polissage, polissage qui est un geste technique globalement attesté en fonction des stigmates du coup, qui sont laissés sur le matériel. Les périodes concernées par ces ateliers vont ainsi être abordées du coup sous l'angle de la culture matérielle des populations préhistoriques. Les seconds types d'ateliers, seconde façon d'apprendre la préhistoire, se concentrent plutôt sur les méthodes utilisées en archéologie et souvent l'accent est mis sur les techniques de fouille. Les ateliers peuvent se dérouler sur des fac-similés de sols archéologiques que les enfants dégagent et relèvent minutieusement. Mais moins souvent, des ateliers sont consacrés aux différentes spécialités du travail de post-fouille, parce que, d'ailleurs parce que non, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est moins souvent abordé, peut-être. Et l'expérience de médiation en archéologie que j'ai choisie ici est en fait consacrée à cette partie du travail de l'archéologue. Cette expérience, elle a été menée auprès d'enfants de cycle 3, âgés entre 8 et 10 ans. Et il s'agit d'un atelier que j'ai mis en place suite à un stage personnel de 6 mois en carpologie. Carpologie, qui est une discipline de l'archéobotanique, qui travaille sur les restes carbonisés ou bien gorgés d'eau, selon les contextes, de graines et de fruits à coque. Dans ce cadre, j'ai pu trier une caisse de carporestes qui m'avait été confiée par Margaretha Tenberg de Paris 1. Et je devais extraire de petits restes de fruits carbonisés, de sachets de sédiments qui étaient issus d'un site archéologique iranien. Je procédais ensuite au tri par espèce et je passais des heures derrière la lunette binoculaire à tenter de distinguer les caractéristiques de chaque graine. Et je m'étais passionnée, vraiment passionnée pour cette tâche pourtant assez mécanique. Alors, la carpologie, c'est une discipline qui fournit de très bons indicateurs sur les paléopaysages. Et chaque carporeste correspondant à une essence, il devient possible donc de connaître une partie de l'environnement d'un site archéologique ainsi que ce qui pouvait éventuellement être consommé du coup par les préhistoriques. Ensuite, à ce stage, j'ai commencé à réfléchir sur les moyens de faire connaître la carpologie aux enfants, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance. Et en questionnant le réseau de médiateurs avec qui je travaillais, rien ne semblait avoir été fait en étant exclusivement tourné vers cette spécialité-là. Donc l'enjeu était quand même de taille, et j'ai commencé à réfléchir donc à la conception d'un atelier consacré à la carpologie et destiné à des enfants de cycle 3. Alors, comment peut-on reconstituer certains paysages disparus? Comment savoir ce que les gens des périodes anciennes consommaient? Et enfin, comment répondre à ces deux questions, en partie, à partir de restes de fruits et de graines carbonisées? Des micro-indices en soi. Mon objectif, c'était que les enfants d'une classe de CE2 puissent répondre à ces questions-là de façon simple. Alors, j'ai pu mener l'atelier carpologie une demi-douzaine de fois, ce qui est peu, mais ma façon de l'organiser est devenue quand même assez standard avec des séquences de travail bien rodées. Donc la description qui va suivre est en fait un condensé de ces multiples expériences en une expérience standard. L'atelier a été construit de façon à ce que l'enfant puisse participer à un protocole donc simplifié du prélèvement de carporeste carbonisé par la méthode de flottation, j'y reviendrai, jusqu'à leur identification. Alors cet atelier-là demande un peu de préparation en amont, notamment la carbonisation des carporestes, qui sont attestés pour les périodes anciennes, en sachant que je m'étais plutôt focalisée sur le néolithique pour cet atelier, avec donc des céréales, des légumineuses, etc. Alors, une fois ces échantillons carbonisés, le rez-de-jardin de cette maison s'en souvient encore, il fallait donc préparer des échantillons en amont qui contenaient à la fois les carporestes carbonisés et aussi le sédiment, un sédiment qui doit être plutôt sableux, je reviendrai juste après. Et avant chaque atelier, je prépare autant de sachets de sédiments qu'il y a de groupes constitués pendant l'atelier. Et dans chaque sachet, je glisse plusieurs types de carporestes, 3, voire 4, à l'intérieur du sédiment. Donc tout ça est totalement artificiel. Alors, avant l'arrivée des enfants, avant l'accueil d'une classe, je commence toujours, et pas que pour cet atelier-là, mais particulièrement quand même pour lui, je commence par organiser l'espace qui est notre futur espace commun avec les enfants, et je réorganise toutes les tables de façon à créer 5 groupes, voire 6, lorsque les effectifs sont très importants. Et pour ces 5 postes, je place sur les tables, de la gauche vers la droite, d'abord un petit seau qui est rempli d'eau à moitié, quelques épuisettes, un carré de tissu blanc, quelques pinces en métal et une demi-douzaine de petits pots transparents. Cette mise en place, elle est déjà opérationnelle avant l'arrivée de la classe, et je passe toujours une demi-heure donc à organiser tout ça, organiser l'espace dans lequel je vais animer, d'autant plus lorsque les classes sont chargées. Alors, les enfants arrivent, et l'atelier commence de façon collective par une question ouverte qui est en lien avec l'atelier et qui me sert en fait de tremplin improvisé pour échanger avec le groupe, où les enfants en fait peuvent poser toutes sortes de questions différentes, mais vraiment impossible d'en extraire en fait, tellement il y en a en tout, mais des questions très très différentes, voilà, pour que les enfants puissent s'exprimer librement suite à cette question ouverte que je leur pose en début d'atelier. Alors concernant la carpologie, cette question pourrait être: comment imaginez-vous le travail d'un archéologue qui travaillerait sur la préhistoire? Donc là, les réponses, encore une fois, sont variées, inattendues, drôles, et suscitent de nombreux échanges. Alors, pour l'atelier carpologie, la suite continue par une histoire. Alors, c'est un atelier que j'ai conçu pour des enfants à partir de 8 ans, et la narration, c'est un bon moyen de capter leur attention, de susciter leur imaginaire. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors, l'histoire que je leur raconte décrit en fait l'habitation d'une famille du néolithique, habitation à l'intérieur desquelles je place des céramiques dans lesquelles la famille en question a stocké une partie de sa récolte de blé, par exemple. Donc cette description en fait se termine de façon dramatique, puisque un incendie ravage totalement ce que j'ai passé un certain temps à leur décrire. Un incendie qui ravage toute ma description, et je leur pose alors la question suivante: mais bon, du coup, que l'archéologue va-t-il retrouver de cette scène? Donc là, les réponses, évidemment, ils n'oublient même pas les squelettes de cette famille, et jusqu'au moment où... Ah oui, les graines carbonisées, effectivement, on peut les retrouver, du coup, suite à cet incendie. Donc... voilà, c'est une bonne façon, la narration, de leur faire comprendre pourquoi est-ce que des tout petits indices comme ça sont retrouvés carbonisés. Une façon d'eux. Alors, une fois que cette histoire se termine, je tends les différents sachets, un à chaque groupe. Il s'agit du prélèvement fictif d'une équipe d'archéologues sur le terrain, ça c'est la façon dont je leur présente les choses, et l'enfant se voit confier la tâche d'identifier les différents taxons du petit échantillon de sédiments qui lui a été donné. Les groupes formés se répartissent ensuite face au matériel qui a été installé, et le prélèvement des graines du sachet est fait grâce à la technique de flottation. Alors les enfants sont souvent très attirés par cette première étape et tout le groupe se retrouve souvent autour du petit seau d'eau qui a été installé. L'un d'eux verse le contenu du sachet dans l'eau et comme les graines sont carbonisées, elles restent à la surface tandis que le sédiment, choisi plutôt sableux, coule au fond. Il ne reste plus qu'à récupérer les graines carbonisées à l'aide des épuisettes. Graines qui sont ensuite disposées sur le support blanc. Les membres de chaque groupe sont chargés à ce moment-là d'effectuer un tri des carporestes en fonction de leur morphologie, puisqu'il ne s'agit absolument pas de leur demander d'identifier des essences à partir de minuscules petites graines noires et altérées. Donc ils isolent en fait 3 voire 4 types en fonction de la forme, simplement, qu'ils répartissent ensuite dans les différents récipients qui sont prévus. Un tri qui s'effectue à l'aide d'une pince, ce qui les contraint à traiter les carporestes les uns après les autres. Une fois que ce tri est terminé, je leur distribue 2 types de référentiels. Le premier, c'est un livret dans lequel une dizaine d'essences est répertoriée, celles qu'ils ont devant les yeux, et d'autres qui ne sont présentes dans aucun des échantillons de chaque groupe. Dans ce référentiel, il y a le nom, il y a le dessin de la plante, ainsi que le carporeste dessiné, non carbonisé, du coup non altéré par rapport aux graines que les enfants ont devant les yeux. Donc il y a quand même une difficulté pour pouvoir associer les deux. Alors, le second référentiel, c'est une petite boîte à casier dans laquelle sont disposés des échantillons non carbonisés qui correspondent à ceux du livret et qui permettent surtout à l'enfant de situer ses observations par rapport à une échelle réelle. Parce qu'un dessin grossi d'une graine de lin ne correspond pas à la taille de la graine de lin. Mais pour l'enfant, le basculement d'une échelle à une autre n'est pas évident. S'il n'a pas une graine grosse comme son poing, c'est-à-dire celle qui est dessinée dans son échantillon, du coup, la graine n'est pas présente vu qu'elle n'est pas grosse comme un poing. Donc, bon, pour éviter ce genre de calcul mental difficile, le second référentiel est particulièrement utile pour eux. Alors, ces deux dernières séquences, à savoir le tri et l'identification, sont en fait les plus longues de l'atelier. Elles durent au minimum une vingtaine de minutes, voire 30 minutes en tout. Et les groupes sont absolument autonomes à ce moment-là de l'atelier. Alors, lorsque les premiers groupes me manifestent qu'ils ont terminé, qu'ils sont tous d'accord sur l'identification de leur taxon, je leur propose alors de s'organiser pour présenter leurs résultats aux autres groupes. Qui prendra la parole, qui montrera les échantillons aux autres, et là encore, les enfants s'organisent. Aucun adulte, ni l'enseignant, ni moi, finalement, n'intervient. Certains enfants, certains groupes notent même ce qu'ils vont dire sur une feuille de papier. Tout seul, enfin, sans que... Une fois que chacun a terminé, je réunis l'ensemble des enfants qui rapportent le matériel sur une table autour de laquelle nous installons debout. Et je laisse la parole à un premier groupe qui présente donc ses résultats aux autres. Alors ce moment de mise en commun donne souvent lieu à des débats entre enfants. Et j'insiste sur ces entre enfants. Certains ne vont pas être d'accord sur l'interprétation d'un autre groupe, c'est-à-dire lorsqu'ils possèdent des graines semblables, mais que leur identification n'est pas la même. Et souvent, les enfants ouvrent grand leurs yeux d'un air surpris et interviennent directement en disant que, de toute façon, ils ne sont absolument pas d'accord avec ce que raconte l'autre groupe. Alors, lors de ces échanges, je n'interviens pas, ou finalement très peu, en lançant naïvement un « Ah, pourquoi ?». Mais je suis quand même particulièrement en retrait. Bon, lorsque les groupes ne parviennent plus du tout à se mettre d'accord et que chacun a proposé ses résultats, je donne quand même l'identité des graines carbonisées de leurs échantillons. En les décrivant. Et dans le cadre du débat, c'est aussi le moment d'annoncer les produits qui peuvent être consommés bruts, comme les noisettes, ou ceux qui peuvent servir de matière première à des produits dérivés, comme le blé pour la farine. Donc c'est aussi un moment important où du coup, une graine carbonisée, toute petite, insignifiante, devient autre chose, quoi. Donc finalement, je n'interviens quasiment pas dans cet atelier, en tout cas c'est mon sentiment. Alors certes, je m'arrange à l'avance pour organiser l'espace, le diviser, mettre en place l'ensemble du matériel avant l'arrivée des groupes. Mais je suis toujours frappée, particulièrement pour cet atelier, de l'autonomie générale, qui se constitue sur quand même des temps relativement longs, parce qu'une autonomie sur une demi-heure pour un groupe d'enfants, c'est quand même pas mal. Ils organisent eux-mêmes la répartition des tâches et chacun se divise le matériel. Toi, tu feras ça. Moi, je veux faire ça. Alors, bien entendu, certaines décisions ne font pas toujours consensus. Les prises de pouvoir ne sont pas toujours bien vécues par les uns ou les autres. Donc, évidemment, j'attends pas que les choses dégénèrent totalement. Alors, même si l'organisation de l'espace et la répartition de la classe en modules de travail est un aspect qui me semble essentiel dans la gestion de classe entière pour ce type d'atelier, l'enfant, lui, il envahit totalement le temps de l'atelier et se le réapproprie. En intervenant peu, finalement, l'autonomie qui est laissée aux enfants leur permet d'échanger entre eux et leur sérieux et leur application à respecter le protocole qu'il aurait proposé, finalement, leur donne la possibilité de faire comme s'ils étaient dans la situation concrète de confrontation à un échantillon archéologique et comme s'ils devaient identifier les taxons d'un site réel. Alors, j'ai donc pu mener cet atelier carpologie une petite demi-douzaine de fois, ce qui est peu, mais l'investissement des enfants qui y ont participé et le dynamisme des échanges que je décris ont remercié mon investissement, puisque ça s'est toujours passé de cette façon-là. Pour terminer, je souhaite poser la question de la place du médiateur dans cet atelier. On le sait, les effectifs des classes sont de plus en plus importants et les ateliers de médiation doivent, par conséquent, de plus en plus s'organiser, souvent avec plus de 30 enfants, lorsqu'il s'agit d'accueillir des classes entières. Mon record est à 36. L'organisation des ateliers en petits groupes de travail génère ainsi un retrait volontaire du médiateur. L'atelier carpologie met en fait en valeur deux façons d'apprendre la préhistoire, deux modes d'apprentissage. D'une part, l'échange verbal, que je privilégie en début d'atelier, un échange assez libre qui a lieu entre le médiateur et l'enfant, ou bien entre les enfants, mais le médiateur est toujours quand même une figure assez présente pour guider l'échange. Il peut être intense, long, fait de questionnements, rarement de réponses sûres, et parfois de silence. La seconde partie de l'atelier, quant à elle laisse peu de place à l'interaction. En tout cas, je donne peu de place à l'interaction avec l'adulte. Pour cet atelier, je privilégie un retrait quasi total, finalement, en deuxième partie, un retrait quasi total de l'adulte. Et ce moment, le moment que j'observe, du coup, je prends un malin plaisir à observer, qui laisse la place à des petites disputes, des discussions, mais aussi des débats, où l'enfant va dire à un autre ce qu'il ne dirait pas à un médiateur. Les choses portent sur l'archéologie, sur la préhistoire. Enfin. Cela permet de laisser aux enfants enfin l'occasion de parler et de réfléchir entre eux dans le cadre d'apprentissage. Voilà. Je m'arrête.